La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, si nous savions que des extraterrestres existent, qu'est-ce que cela changerait pour nous autres les terriens ? Dans l'article de l'encyclopédie qui définit ce qu'il est convenu d'appeler un problème, on peut lire ces phrases. Problème en termes de logique signifie une question douteuse ou une proposition qui paraît n'être ni absolument vraie, ni absolument fausse, mais dont le pour et le contre sont également probables et peuvent donc être soutenus avec une force égale. Ainsi, c'est un problème que de savoir si la Lune et les planètes sont habitées par des êtres qui soient en quelque sorte semblables à nous. C'est aussi un problème que de savoir si chacune des étoiles fixes est le centre d'un système particulier de planètes et de comètes. Fin de citation. Alors faisons l'hypothèse, sans attendre et juste pour voir, que ce problème a été résolu par les scientifiques qui auraient démontré de façon certaine qu'il existe des êtres extraterrestres vivants, sensibles, plus ou moins semblables à nous. Et posons-nous la question suivante. Qu'est-ce que cela changerait à notre façon de penser, de croire, de vivre sur Terre et de considérer le monde? Par exemple, est-ce que cela nous obligerait à modifier le sens du mot « autrui » ? C'est pour discuter de toutes ces questions que j'ai invité Jacques Arnoux. Bonjour Jacques Arnoux.
Bonjour.
Vous êtes historien des sciences et théologien, vous êtes spécialiste d'éthique au CNES et vous venez de publier un livre dont le titre est « Turbulence dans l'univers » et le sous-titre est « Dieu, les extraterrestres et nous », ce qui constitue un vaste programme. Alors, avant d'entrer dans le cœur de votre thèse, quand on parle d'extraterrestres, à quoi pensez-vous ? À des êtres qui nous ressemblent ? À des sortes d'animaux ? Est-ce que vous les figurez ?
Étant biologiste, j'ai un peu du mal à me les figurer parce que j'imagine effectivement que je dois y inclure dans ce terme d'extraterrestre aussi bien la plus modeste des bactéries que l'organisme le plus développé. Alors c'est vrai, comme vous venez de le faire, j'aurais plutôt tendance à introduire des êtres doués d'une certaine intelligence, d'une certaine conscience, avec la possibilité, alors fascinante, c'est-à-dire à la fois effrayante ou fortement attirante, de pouvoir les rencontrer et de converser avec eux. Mais voilà, une expérience de pensée, comme vous l'avez proposé, imaginons plutôt des êtres un peu élaborés, avec une possible rencontre de troisième type.
Donc la question que vous posez dans votre ouvrage, c'est qu'est-ce que cela changerait pour nous, notamment pour notre foi, vous avez la foi et la foi chrétienne, et vous posez la question de savoir si l'existence avérée de ces êtres pourrait changer notre façon de croire. Mais est-ce que c'est une question que vous vous posez vous-même, ou est-ce que c'est une question qu'on vous pose parce qu'on sait que vous êtes théologien ?
C'est dans l'histoire, dans mon propre histoire, c'est plutôt la seconde alternative. C'est vrai que, comme j'ai souvent l'occasion de faire des conférences autour des questions spatiales, vous l'avez rappelé, je travaille pour l'Agence spatiale française, quand mes auditeurs savent ou apprennent que j'ai aussi quelques intérêts à la théologie, immanquablement, et donc ça veut dire quasiment à toutes les conférences, arrive la question, mais si demain, vous découvriez, vous, le genre de science, parce qu'on me met dedans, même si je ne suis pas scientifique, qu'est-ce que ça entraînerait ? Ben, ça risquerait de complètement bouleverser les religions, voire même de les faire disparaître. Donc, j'ai souvent essayé, et je continue à essayer de répondre à ces questions-là, et donc j'ai aussi été amené moi-même à y réfléchir, quitte à inverser un peu la problématique et d'en faire effectivement un exercice de pensée, plutôt que de rajouter une nouvelle couche sur un débat où se mélange trop facilement science et théologie.
Alors les physiciens ont l'habitude, depuis Galilée, de faire des expériences de pensée. Oui. Einstein est connu pour des expériences de pensée célèbres qu'il a inventées avant de découvrir la théorie de la relativité. Ruven Ogier, un philosophe que nous recevions il y a quelques semaines, nous expliquait qu'en philosophie morale, on fait aussi des expériences de pensée. Mmh. On imagine des situations, on essaie de déterminer ce qu'il faut faire dans telle ou telle circonstance. Et vous-même, en théologie, vous dites, on peut faire également des expériences de pensée. Il y en a certaines qui sont classiques. Par exemple, on peut mettre l'idée de l'omnipotence de Dieu en contradiction avec elle-même, en se demandant si Dieu pourrait créer une pierre si lourde qu'il ne puisse pas la porter. S'il peut créer une telle pierre, ah ben il cesse d'être tout-puissant. Et s'il ne le peut pas, c'est qu'il n'est pas tout-puissant.
Donc, exactement.
Est-ce que c'est utile et à quoi ça permet d'arriver en termes de résultats théologiques ?
Bien, comme toute expérience de pensée, il faut d'abord bien poser que c'est une expérience de pensée. ont bien posé les limites. Et en théologie, du moins tel que je pratique ce genre d'exercice, ça donne surtout l'occasion de considérer une tradition religieuse, et là en l'occurrence la tradition chrétienne à laquelle j'appartiens, avec un regard, une perspective un peu différente. Comme j'aime à dire, vous prenez un éclairage différent, nécessairement il y a des choses qui étaient absolument évidentes, des reliefs qui étaient imposants, qui finissent par disparaître, et au contraire, des aspects qui étaient très cachés, qui peuvent être révélés. C'est ça l'intérêt d'un exercice de pensée, en tout cas en théologie, et je dirais même en général en spiritualité. On connaît les haïkus, tous ces maîtres de spiritualité qui, à leurs disciples, leur proposent des énigmes, leur proposent des situations tellement originales qu'ils sont désarçonnés, qu'ils sont déboussolés, et ce faisant qu'ils découvrent peut-être une autre manière de considérer la même tradition religieuse, la même tradition spirituelle ou théologique. Il ne s'agit pas du tout de verser immédiatement dans la fiction ou dans, pire encore, dans l'hétérodoxie. Il s'agit simplement de considérer ces traditions différemment.
Alors Jacquard, nous ne savons pas aujourd'hui s'il existe des extraterrestres. On découvre de plus en plus d'exoplanètes dans d'autres systèmes planétaires. Et on a tendance à dire, plus on en trouve, plus la probabilité qu'il existe une vie ailleurs que dans notre système augmente. Est-ce que c'est un bon raisonnement ou est-ce que vous pensez que finalement il n'y a pas de planète identique, il y a une sorte de biodiversité des systèmes planétaires qui fait que il se pourrait quand même que la vie n'existe que sur Terre sous la forme qu'on lui connaît?
J'entends très bien l'argument, surtout des astronomes d'ailleurs, qui quasiment presque tous les jours découvrent des nouvelles exoplanètes, travaillent sur les questions d'habitabilité de ces planètes par rapport à l'étoile en question. Et c'est vrai que l'accumulation, l'un d'entre eux dit, il pleut des planètes, l'accumulation du nombre de ces planètes laisserait à penser que les chances augmentent. Et en même temps, n'étant pas astronome, et je le répète, plutôt de tendance biologiste, le biologiste est sans doute plus sensible au caractère particulier et complexe du vivant tel que nous connaissons aujourd'hui sur Terre. Et c'est vrai que tout à la fois la diversité extraordinaire qui existe sur cette planète et sa singularité fait que le biologiste va plutôt aller dans le sens que Monod, il y a plus de 40 ans, disait l'homme est seul au sein de l'univers. Monod était déjà sensible à ce caractère très singulier, voire unique du vivant. Donc je reste plutôt ouvert aux possibilités. Je n'entre pas nécessairement en prenant une position définitive quant à l'alternative. Ils existent ou n'existent pas. Mais ma sensibilité biologique me ferait penser restons raisonnables et en tout cas rendons-nous compte de la singularité de la vie sur Terre. C'est déjà pas mal. Et laissons la possibilité ouverte et l'absence possible.
En tout cas, il est possible qu'un jour on démontre l'existence d'une vie extraterrestre. Mais il est possible qu'on ne parviennent pas à la démontrer, ce qui ne voudrait pas dire qu'elle n'existe pas. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence.
Oui, et les dimensions de notre univers, de la réalité que nous pouvons observer, ces dimensions sont déjà tellement exorbitantes que nous n'aurons jamais le temps de faire le tour de cet univers pour aller déceler dans le moindre des recoins la plus petite des bactéries. Donc de ce point de vue-là, ou bien nous les trouvons, nous les dénichons dans le temps que la survie de notre espèce nous laisse, ou bien nous resterons toujours dans l'ignorance.
Mais on peut savoir un jour qu'il existe des extraterrestres, mais savoir aussi qu'il est impossible d'entrer en contact avec eux. Alors, si l'exoplanète la plus proche habitable est à 40 années-lumière, un vaisseau spatial ne peut circuler qu'à quelques dizaines de milliers de kilomètres par heure, ça veut dire qu'un tel voyage prendrait des millions d'années, et donc il n'y aurait pas de contact possible. Et s'il n'y a pas de contact, est-ce que l'existence des extraterrestres a un poids sur notre intellect et notre façon de penser l'univers?
Un poids qui peut être relatif, c'est-à-dire que je pense que pour le quotidien ou le commun de nos existences, l'annonce effectivement d'une vie extraterrestre, mais sur une planète à des années-lumière, fera un buzz momentané, évident, ça c'est, mais momentané. Et nous, rapidement, notre quotidien de terrestre viendra nous submerger, et ce qui est tout à fait normal, nous sommes des êtres très anthropocentrés, et c'est important de le demeurer d'une certaine manière. Je pense quand même que pour la pensée, parce que cette question a tellement habité la culture, ne serait-ce que la culture européenne, depuis plus de 2 millénaires, 2500 ans, au minimum, sinon plus.
Oui, c'est ce que vous rappelez dans votre livre, c'est une très vieille question.
C'est une vieille question. Que tout de même, un élément supplémentaire d'origine scientifique qui dirait, même à des années-lumière, des êtres vivants. Alors, est-ce que nous aurons des éléments suffisants pour dire des êtres conscients ou pas conscients? Ces êtres existeraient. quand même apporterait, par rapport au problème, vous citiez la question, la définition de l'encyclopédie, eh bien, apporterait quand même un élément supplémentaire, au moins aux penseurs. Alors, je crois que dans la communauté des penseurs, des philosophes, je rajouterais volontiers les théologiens, des scientifiques aussi, il y aurait quand même du grain à moudre.
Alors, est-ce que, Jacques Arnaud, on peut reprendre quelques éléments de cette histoire? À quand la faites-vous commencer la question de savoir s'il existe ailleurs d'autres vies possibles que la nôtre?
Alors, j'ai fait commencer mon histoire, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres traces auparavant, hein, c'est très clair, il y a des choix à faire, avec ces philosophes grecs, qui au 5e siècle avant notre ère, sont déjà en train de disputer sur cette question avec deux grandes écoles, l'école des atomistes, nous le savons, qui considère que la réalité que nous connaissons aujourd'hui est simplement l'agrégation momentanée d'atomes, ce qu'ils appellent, hein, donc des atomes, des particules insécables, même si aujourd'hui, vous les physiciens, vous les disséquez encore plus, mais à l'époque, voilà, ces atomes, une agrégation momentanée, issue de mouvements aléatoires, ajoute-t-il, et cette réalité peut très bien demain se désagréger, donner une autre réalité. Donc aussi bien pour ces atomistes, dans l'espace que dans le temps, on peut imaginer une pluralité des mondes. C'est même pas une imagination, pour eux, c'est une certitude. Donc voilà, une des écoles, donc en faveur de la pluralité des mondes. Et puis l'autre école, c'est celle qui va évidemment être illustrée par Platon et Aristote, ou au contraire, une conscience du monde avec un cosmos bien ordonné, pas de place au hasard, au un seul monde, et au centre de ce monde, la Terre qui est la nôtre, avec les êtres vivants que nous sommes.
Alors on peut les citer, parmi les premiers, les atomistes, il y a Épicure qui dit ceci, « Il existe des mondes infinis, semblables et différents du nôtre, car les atomes étant en nombre infini, comme il a été prouvé, sont emportés loin dans l'espace. Or, ces atomes qui sont de nature à pouvoir créer ou fabriquer un monde n'ont pas été épuisés par la création d'un seul monde ou d'un nombre limité de mondes. Il s'ensuit qu'il n'existe aucun obstacle à l'existence d'un nombre infini de mondes. » Ça, c'est la thèse atomiste. Et puis celle d'Aristote ou de Platon. « Dès lors, il nous faut renoncer à nos propositions de départ ou reconnaître qu'il n'y a qu'un seul centre et une seule extrémité. S'il en est ainsi, le ciel doit nécessairement être un et non multiple. Les mêmes indices et les mêmes démonstrations rigoureuses le prouvent. » Ils sont très sûrs d'eux.
Ah oui.
Dans un camp comme dans l'autre.
Bien sûr. Mais surtout parce que précisément, ces deux camps, comme vous venez de le dire, nous sommes dès cette époque-là dans des disputes, dans des débats, où les enjeux ne sont pas simplement des exercices gratuits de pensée. Il y a toute une manière de concevoir le monde, y compris le monde terrestre. On l'a bien senti, le côté aléatoire, ou au contraire ordonné. Derrière ça, il y a tout un système, des systèmes philosophiques largement opposés qui sont en train de se rencontrer et d'être en joute. Donc, quand on est en joute, quand on est en dispute, sans doute que nous avons plutôt tendance à forcer le trait, et parce que nous avons un adversaire en face de nous. Donc là, on a vraiment deux écoles.
Mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'à cette époque-là, la question était philosophique finalement?
Oui, elle était philosophique et en même temps pas du tout, comment dirais-je, gratuite, parce que comme je viens de le dire, c'est vraiment une manière de comprendre la réalité dans laquelle nous sommes, de comprendre l'ordre ou le désordre, et donc, philosophique avec des conséquences éventuellement sociales. Et on sait bien qu'une des deux écoles va prédominer sur l'autre, en l'occurrence Aristote.
Mais quel était l'enjeu finalement? Qu'est-ce que ça aurait changé pour Aristote? Par exemple, faisons à notre tour une sorte d'expérience de pensée rétrospective. Imaginons qu'Aristote, de son vivant, ait appris l'existence d'autres mondes avec des êtres vivants qui les habitent, quelle aurait été sa réaction, sa surprise? Est-ce que son système se serait effondré?
Laissons Aristote le soin de reconstituer son système, parce que un philosophe est aussi capable de retomber sur ses pieds lorsque la réalité s'impose. Et donc c'était aussi une qualité, je crois, aux penseurs comme aux scientifiques, de, après avoir posé des hypothèses, lorsque les réalités s'imposent, de pouvoir reconsidérer ces hypothèses. Mais c'est vrai qu'entre un monde si bien ordonné à la manière des Grecs, ce monde cosmique, où même on impose que le monde soit ordonné, et puis cette vision des atomistes beaucoup plus désordonnée, beaucoup plus aléatoire, même dans le monde des sciences, qui est davantage le vôtre, on peut imaginer aussi des grands bouleversements, parce que c'est bien là-dessus que va se jouer, bien plus tard, presque 20 siècles plus tard, à l'époque moderne, va se jouer une certaine révolution.
Nous ne savons pas si les planètes abritent de la vie, mais nous savons qu'elles jouent de la musique. Du moins, si l'on en croit le titre du morceau de musique que vous avez choisi, que nous allons écouter, et qu'on doit à Sylvie Vauclair, qui est astronome, astrophysicienne. Chacun nous, la musique des planètes, morceau de Sylvie Vauclair est composé par...
Par Monsieur Lévin, donc c'est une composition au sens d'une rencontre entre un compositeur de musique, qui, donc un instrumentiste aussi, et puis une astronome et qui apporte toutes ces ondes qui nous viennent des planètes, parce que ce sont des ondes qu'on peut, l'on peut introduire, mettre en musique. Et je trouve ça intéressant comme exercice, ne serait-ce que cette rencontre entre science et créativité. Et c'est la manière dont la réalité vient nous troubler, nous bousculer ou peut-être inspirer nos artistes.
Mais quand vous écoutez cette musique, vous imaginez des êtres qui...
Pas nécessairement des êtres. En tout cas, je pense que ce type de création, donc en l'occurrence musicale, peut nous inviter à une attitude d'étonnement. Dans mon ouvrage, je réfléchis à un moment donné sur la différence entre émerveillement et étonnement. L'émerveillement, c'est sublime, c'est superbe. Mais en même temps, l'esprit peut-être à la fois cartésien qui est le nôtre ou scientifique nous fait que nous mettons un peu un pas de côté et puis nous restons étonnés, donc aussi en question. Et je trouve que ce type de création, création artistique peut nous mettre dans cette posture-là, qui est une posture non seulement intellectuelle, mais humaine, je trouve extrêmement intéressante et qui nous permet d'aller de l'avant.
Alors, je vous propose que nous reprenions le cours de l'histoire. On l'a commencé avec les atomistes qui croient à une pluralité des mondes et même à une infinité de mondes. Aristote qui, lui, ne croit qu'à un monde unique. Quelles sont les étapes qui suivent, les étapes importantes qui suivent ce questionnement ?
Alors, une étape, l'étape suivante, et qui nous concerne peut-être plus directement dans notre culture occidentale, je fais un pas immense, parce que j'arrive déjà au XIIIe siècle, vous voyez, donc nous sommes passés du Ve siècle de l'ère précédente au XIIIe de notre ère.
Vous allez vite pour un théologien.
Oui, mais parce que c'est aussi pour ne pas lasser les lecteurs ou les auditeurs. C'est parce que, précisément, Aristote, qui a quand même dominé son temps, est redécouvert au XIIe, XIIIe siècle. Et l'un de ceux qui redécouvre Aristote, et n'est pas des moindres, s'appelle Thomas d'Aquin, il est professeur à l'université naissante de Paris, donc en théologie, et il propose à ses confrères théologiens d'utiliser la philosophie d'Aristote pour renouveler la théologie chrétienne de l'époque, la théologie scolastique. Ça se passe pas très bien, on pourrait dire avec des mots plus récents, c'est un peu les anciens, moderne, Thomas étant un moderne. Ça se passe pas très bien, au point que, après d'ailleurs la mort de Thomas, quelques années plus tard, les disputes entre théologiens énervent tellement l'évêque de Paris qu'il est obligé de prendre des sanctions et de décider ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable du point de vue du magistère catholique, du magistère chrétien. Et dans ces condamnations, dans ces distinctions, il y a une qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'il condamne très clairement l'affirmation de l'unicité du monde, en disant « celui qui affirme l'unicité du monde, il se trompe ». Alors, ce qui est intéressant, c'est pas la condamnation, parce que la condamnation, c'est jamais très agréable, c'est le motif, l'argument de l'évêque de Paris, Étienne Tempier, donc, nous sommes en 1277, hein, je vous rappelle, et c'est assez intéressant, il dit, au fond, pourquoi condamner l'affirmation de l'unicité ? C'est parce que nous, les terriens, ou nous, les terrestres, ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il peut ou ne pas, il ne peut pas créer. C'est pas à nous de donner une limite à la toute-puissance créatrice de Dieu. Donc, vous parliez de la toute-puissance.
Donc, c'est l'argument de la toute-puissance qui est réinvesti dans l'idée que plusieurs mondes sont possibles et même nécessaires.
Voilà. Pas nécessairement nécessaire. Mais en tout cas, ce n'est pas à nous de décider. Donc là, par rapport à l'exercice de pensée sur la pierre, lui se place différemment. C'est effectivement la question de la toute-puissance créatrice, mais ce n'est pas à l'homme de donner des limites à cette toute-puissance. En quelque sorte, c'est un appel à la modestie, ce que nous pouvons percevoir, ce que nous, les terriens, les humains, pouvons connaître de cette réalité, ne nous permet pas de faire une forme des limitations, des limites théologiques à la création.
C'est-à-dire, pour reprendre mon introduction, il s'agit d'un problème dont nous ne connaissons pas la solution.
Exactement. Et là, le théologien doit être capable de se taire. Ce qui est une qualité qu'il n'a pas nécessairement, mais que j'aime toujours rappeler, parce que l'un des tout premiers théologiens, c'est le brave Job sur son tas de fumier, eh bien, quand à la fin de son expérience, il se tait. Et je dis toujours que c'est une excellente qualité pour un théologien. Mais on va quand même continuer, j'espère, notre conversation.
Ah oui, au moins une demi-heure. Alors, est-ce que c'est une étape importante, ce 12e, 13e siècle? Est-ce que ça a fait autorité, cet avis de l'évêque de Paris?
Oui, je pense que c'est une étape importante, même si on a souvent oublié cet épisode et puis cette décision d'Étienne Tempié, il me semble quand même que c'est la posture autour de laquelle finalement le magistère romain va toujours tourner, parce que il ne prendra jamais plus position quant à cette question-là, hormis quelques cas que vous allez évidemment tout à l'heure mentionner, parce que c'est des cas un peu tragiques, mais du point de vue théologique, c'est cette posture-là qui va être, à mon avis, maintenue, et qui aujourd'hui me semble d'autant plus prévaloir que, effectivement, les données scientifiques sont arrivées. Nous sommes entre le 13e et aujourd'hui, il y a tout de même l'apport des sciences qui est prépondérant.
Mais quand on imagine cette vie ailleurs, à l'époque, est-ce qu'on pense à des gens comme nous, des extraterrestres qui seraient d'autres humains, finalement, avec éventuellement des animaux, ou est-ce qu'on envisage déjà l'extraterrestre au sens de la science-fiction d'aujourd'hui ?
Je pense qu'on les imagine plutôt comme nous, en tout cas comme des proches, parce que si on fait un tout petit saut cette fois-ci et que nous tombons au milieu du 15e siècle avec le célèbre Nicolas de Cuse, qui lui est un éminent personnage ecclésiastique, cardinal, grand défenseur du pape, grand diplomate, lui, dans son célèbre ouvrage « La docte ignorance », va évoquer les habitants de la Lune, les habitants du Soleil.
15e siècle. Hein,
nous sommes en 1440, milieu du 15e siècle. Et à le lire, on imagine qu'il leur donne à la fois des caractéristiques bien particulières. Bien sûr, il va dire que les habitants de la Lune sont lunatiques, que les habitants du Soleil sont solaires et sont pratiquement resplendissants. Mais on n'a pas pour autant l'impression que ce soit des êtres totalement différents, en tout cas qui n'en ressemblent pas aux petits hommes verts du XXe siècle.
On peut le citer, il écrit « La vie telle qu'elle existe ici-bas sur Terre sous forme d'hommes, d'animaux et de plantes, supposons qu'elle existe sous une forme plus élevée dans les régions solaires et stellaires. Plutôt que de considérer que tant d'étoiles et de régions des cieux sont inhabitées et que seule cette Terre est peuplée, qui plus est d'êtres d'une espèce peut-être inférieure, nous supposerons que dans chaque région, il existe des habitants de nature différente selon leur rang, qui doivent toutes leur origine à Dieu, qui est le centre et le pourtour de toutes les régions stellaires. » Fin de citation. En fait, il fait la même expérience de pensée que vous.
Oui, d'une certaine manière, absolument. Alors, il va, lui, développer plutôt une philosophie, une théologie de la connaissance, Docte Ignorance, puisque c'est le titre de son ouvrage. De mon côté, je me suis plutôt à des expériences, je dirais, plus théologiques au sens de relecture de la Bible et de quelques éléments théologiques. Mais c'est vrai qu'il affirme, à le lire, c'est presque une affirmation, avec, en tout cas, une affirmation de cette pluralité dans des termes qui sont assez précis et presque assez étonnants de la part d'un homme qui, par ailleurs, est très prudent au niveau de la diplomatie vaticane.
Mais vous parlez aussi d'un autre, alors je ne sais pas s'il était théologien, mais un contemporain de Nicolas de Cuse qui s'appelle Guillaume de Vaurilhon.
Oui,
c'est
oui,
ça
oui.
Qui était-il ?
Aussi un théologien de cette époque-là.
Et lui, il pose des drôles de questions. Il se demande si les extraterrestres ont péché ou non.
Alors bien sûr, parce que ça, c'est déjà pratiquement l'époque moderne. Vous voyez, donc, quand on est au Moyen-Âge, la grande question, c'est le Dieu tout-puissant créateur. Et on ne s'interroge guère comme théologien sur le destin de ces créatures qui éventuellement peupleraient ces autres mondes. Et petit à petit, au fur et à mesure où on se rapproche de la Renaissance, puis bientôt de l'époque moderne, les théologiens vont mettre de côté l'aspect du Dieu créateur, parce que de fait, quand on va arriver au XVIIe siècle, ces mondes vont affluer quelque part derrière les télescopes ou devant les télescopes des astronomes. En revanche, la question va devenir plus anthropologique, même si c'est pour des extraterrestres, la question c'est quel est le destin de ces êtres-là. Et donc, pour un théologien, c'est est-ce qu'ils ont péché ou pas, est-ce qu'ils doivent être sauvés ou pas. Et donc Guillaume, lui, va aller déjà au XVIe siècle. Au XVe siècle, va déjà poser ces questions-là.
Guillaume de Vaurilhon qui écrit « Si le Christ, mourant sur cette terre, pouvait racheter les habitants d'un autre monde, je dirais qu'il en est capable, même s'il ne serait pas convenable qu'il se rende sur un autre monde pour y périr une fois de plus. »
Mais oui, parce que là, vous savez, on est au cœur de pas mal de revendications humaines. Parce que, pour la foi chrétienne, le Christ s'incarne dans notre espèce humaine, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Si je m'inscris, si je confesse cette tradition-là, j'ai toutes les raisons de penser que cette espèce humaine, c'est quand même la plus extraordinaire de tout l'univers, puisque Dieu choisit de prendre corps dans cette espèce-là. Donc c'est une raison d'orgueil qui oublie la raison théologique fondamentale, c'est parce qu'on a péché que le Christ s'incarne. Mais bon, on oublie ça et on en fait une raison de une véritable décoration majeure. Et donc, Guillaume tout à la fois dit, il y a d'autres êtres, ils ont pu pécher. Oui, mais le Christ ne va s'incarner que dans notre nature, parce que nous, nous sommes quand même le fleuron de la création. Et ça, c'est un argument qu'on retrouve dans les questions extraterrestres, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres domaines et dans d'autres dossiers que vous connaissez bien, sur les questions d'évolution biologique. Est-ce que notre espèce est une espèce comme une autre, qui est issue d'un processus évolutif tout à fait classique, ou est-ce que, du fait de son statut théologique particulier, elle doit être séparée du reste ?
Parce qu'elle aurait une singularité ontologique, en quelque sorte.
Et en l'occurrence, théologique.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
Alors, est-ce que les découvertes de Copernic, d'abord de Galilée ensuite, précédées par les discours de Bruno, ont changé la donne ?
Alors, avec tous ces astronomes et ces penseurs, depuis Bruno, Copernic, on entre dans une époque, et là, vous la connaissez mieux que moi, mais une époque importante, avec quand même ce personnage de Bruno qui est intéressant, je trouve, parce que c'est peut-être le dernier des anciens, avant d'être le premier des modernes. Il va mal terminer sur un bûcher.
Il fait la transition.
Il fait la transition, parce qu'il connaît très bien toutes ces traditions dont nous venons de parler, et sans doute encore mieux, bien mieux que moi. Il l'incarne, et il fait un saut de pensée extrêmement puissant, parce qu'en s'appuyant sur les découvertes ou les avancées de Copernic, comme il meurt en 1600, va venir juste après Galilée, il affirme la pluralité des mondes, il affirme l'infinité, le caractère infini du monde, et c'est pour cette raison qu'il va être condamné, parce que en donnant un qualificatif infini, en qualifiant d'infini ce monde, il donne au monde un qualificatif qui est normalement réservé à Dieu. Et donc la pluralité des mondes, on voit bien, devient un opposant possible à une forme de confession.
Alors celui qui va ouvrir les hostilités contre Copernic, c'est Martin Luther.
Oui.
Qui écrit dans ses propos de table, alors c'est des propos qu'on pourrait presque, qui rappellent ce qu'on entend aujourd'hui, il a l'air de dire que plus rien ne va. Je cite, on parle d'un nouvel astrologue qui veut prouver que la Terre bouge et tourne au lieu que ce soit le ciel, le soleil et la lune, tout comme si un homme en char ou en bateau prétendait qu'il ne bouge pas de place et que ce sont la Terre et les arbres qui marchent. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Quand un homme veut faire le malin, il faut qu'il invente quelque chose, et sa façon de faire doit être obligatoirement la meilleure. Cet imbécile veut mettre tout l'art de l'astronomie à l'envers, seulement l'Écriture sainte nous le dit, c'est au soleil que Josué a commandé de s'arrêter, et pas à la terre. Fin de citation.
C'est quand même pas mal, hein.
La messe est dite.
Mais oui, enfin, surtout pas un protestant. Mais non, c'est propos de table avec le personnage qui est Luther, mais... Nous voyons bien qu'il y a une opposition, et Luther n'est pas le seul. Dans la communauté protestante naissante, il y a aussi une assez forte opposition à cette nouvelle manière de considérer la réalité, où se trouve effectivement mise en question une lecture trop littérale de la Bible. Et d'ailleurs, l'argument de Luther est intéressant, parce qu'il parle de ce voyageur qui voit bouger le ciel, mais nous sommes effectivement en voyage sur cette planète. Donc, son argument est intéressant. On peut l'utiliser dans le sens inverse.
On a l'impression que ces questions, à l'époque, étaient extrêmement sensibles. Est-ce qu'elles le sont encore? C'est-à-dire, est-ce que dans les discussions que vous avez avec des confrères théologiens, la question de la vie extraterrestre occupe une part importante?
Alors, paradoxalement, la question est souvent posée par des non-théologiens. Et combien de fois j'ai été interpellé par des collègues scientifiques du monde de l'astronomie, du monde spatial, qui m'affirmaient très, très gentiment, sans aucune animosité, mais le jour où on va trouver de la vie extraterrestre, ça sera fini des religions, en particulier du christianisme.
Quel est l'argument ?
L'argument, j'ai du mal justement à le décortiquer. C'est parce que le sentiment que l'apparition d'autres formes de vie va, et c'est vrai, suffisamment bousculer l'anthropocentrisme qui caractérise au moins ce qu'on appelle aujourd'hui les monothéismes, le judaïsme, l'islam, le christianisme, que cet anthropocentrisme sera tellement bousculé et mis en pièces que l'ensemble du système religieux d'où émerge cet anthropocentrisme pourrait être bousculé. De fait, il semblerait que c'est un, si je puis me permettre, un vœu pieux qui est caractéristique plutôt des non-croyants. En tout cas, les sondages qui ont pu être faits par quelques collègues, en particulier aux États-Unis, montre quand on pose la question, est-ce que justement, donc est-ce que la découverte d'une vie extraterrestre entraînerait, bousculerait les croyances, eh bien, l'affirment très volontiers les non-croyants. En revanche, quand vous posez la même question à des croyants de religions fort différentes, quand on est aux États-Unis, quand on se renvoie en Californie, on trouve très facilement des représentants de toutes les religions du monde, eh bien, ces croyants se trouvent beaucoup moins bousculés que ne le prétendent les non-croyants.
Alors, ça veut dire qu'ils sont indifférents ?
Non, pas indifférents. Non pas indifférent, mais c'est que... Alors après, la distinction, il y a des distinctions qui peuvent se faire entre les courants religieux et à l'intérieur de chaque courant, entre les postures croyantes ou religieuses. Il est clair que les croyants dogmatiques qui tiennent à une lecture littérale de leurs textes sacrés ou au dogme de leur propre religion, dans lesquels il n'est pas question d'extraterrestres, ont du mal à admettre... la découverte potentielle d'une vie extraterrestre. Ceux qui sont moins fondamentalistes ou moins littéralistes ou moins dogmatiques disent, au fond, comme on l'a entendu même déjà dans notre petit parcours historique, c'est une réalité à intégrer et le plus souvent, cette tradition religieuse à laquelle ils adhèrent peut parfaitement l'intégrer. Il y a aussi des différences en fonction des courants religieux. C'est vrai que les courants philosophiques ou religieux extrêmes orientaux avec des échelles d'espace et de temps sont beaucoup plus accueillants par rapport à l'existence d'autres mondes. Mais même, une fois encore, même la tradition chrétienne, auquel nous avons déjà largement fait allusion, se trouve finalement, je dirais, peut se trouver relativement à l'aise avec une telle possibilité.
Mais chacun, est-ce qu'on pourrait pas s'en sortir, entre guillemets, en disant que il peut y avoir des êtres extraterrestres ailleurs, mais qu'il n'y a d'humains que sur Terre. Autrement dit, que nous sommes terriens, finalement, avant d'être humains. C'est notre Terre qui nous a fait être ce que nous sommes. Mm-hmm. Nous sommes des êtres géocentrés. Et même s'il y a de la vie ailleurs, elle ne ressemble pas du tout à la nôtre. Il n'y a pas, en quelque sorte, de concurrence théologique à invoquer pour remettre en cause les croyances terrestres.
Moi, je partage tout à fait cette position. D'ailleurs, quand vous parliez du caractère terrestre et géocentré, je n'oublie jamais le très beau texte de Husserl de 1934.
La Terre ne se meut pas.
La Terre ne se meut pas. Hein, la Terre originaire, l'arche originaire de notre humanité.
La Terre est notre archifoyer, dit-il.
Voilà, voilà. Donc ce constat par ce philosophe de cet enracinement, de cet accrochage de notre espèce humaine est pour longtemps encore à cette Terre. Et c'est vrai que c'est là qu'il faut... je crois absolument tempérer les ardeurs des uns et des autres, aussi bien les pour et les contre, que notre espèce reste attachée à cette terre. Elle est singulière de ce point de vue-là. Et la théologie, si on reprend ce vieux texte qui est sans cesse cité par les uns comme par les autres, hein, du texte de la Genèse où Dieu est dit créer l'homme à son image... Ça ne pose aucun problème, enfin à mon avis, aucune limite sur la création d'autres êtres à l'image de Dieu. Sinon, si on crée un lien beaucoup trop strict, on réduit une fois de plus Dieu à l'image de l'homme, ce qu'on a évidemment un théologien ne devrait pas faire.
Alors, vous parlez dans votre livre, Jacques Arnaud, du problème christologique. Qu'est-ce ?
Alors, c'est ce que vous avez déjà commencé à évoquer avec ce brave Guillaume de Vorillon. C'est que, une fois qu'on a un peu réglé la question du Dieu créateur en disant, bon, finalement, le Dieu tout-puissant, eh bien, au lieu de faire un seul monde, comme disait Aristote, il va en faire plusieurs. Et au contraire, c'est très bien. Et plus il y a de la variété, plus son pouvoir créateur est affirmé. Et donc, arrive à la question du Christ, comme je le disais tout à l'heure, fait homme, qui vient nous sauver. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors là, il y a une question que je trouve, il y a un enjeu, c'est le théologien qui parle, mais extrêmement intéressant. En même temps, quand on regarde un peu l'histoire du christianisme, il y a une chose que je trouve vraiment fascinante, c'est de voir ce qui se passe au lendemain de ce jour qui est essentiel pour la foi chrétienne, qui est le jour de Pâques. L'événement de Pâques, ça, dans la tradition chrétienne, ça a une date et un lieu. Ça se passe à Jérusalem, le matin d'une Pâque que l'on pourrait, que certains calculent. Bon, c'est vraiment très très localisé. Et dès le surlendemain, la question pour les premiers chrétiens, c'est quelle mesure donner, quelle échelle donner à cet événement ? Est-ce que c'est uniquement pour nous qui sommes les témoins ou les quasi-témoins de cet événement-là ? On arrive le lendemain et c'est une tentation. en disant au fond, voilà, il est arrivé quelque chose, j'en profite parce qu'il y a encore un peu de lueur de la résurrection qui continue à exister à Jérusalem, mais ça va être, après c'est la fin du monde, ça va, c'est que moi qui vais être sauvé, ou que nous, le petit groupe d'élus. Au contraire, leur premier souci, ou leur souci en tout cas de gens comme Saint Paul, l'apôtre qui est un peu à l'origine de l'Église, va dire, c'est pas du tout uniquement pour vous. Ça a tout de suite une échelle cosmique.
Et pas seulement terrestre.
C'est ça qui est étonnant. Parce que on a souvent la... Moi, le premier, j'ai tendance à dire, oui, les premiers chrétiens, ils étaient occupés par leurs propres petites histoires, leurs petits problèmes locaux. Non, les premiers théologiens, Saint Paul et les autres, ont tout de suite voulu donner cette dimension cosmique. Et en ce sens-là, ils répondent, avant même que la critique n'arrive, à ce qui va naître dans notre Occident au 19e, au 20e siècle, tous ceux qui vont dire et critiquer le christianisme pour son côté un peu étriqué, et à juste titre, vous êtes trop anthropocentré, votre histoire de la création, c'est trop géocentré. Oui, c'est vrai que c'est l'évolution qui a été celle de plusieurs siècles et de beaucoup trop de siècles, mais chez les pères de l'Église, mais chez saint Paul, il y avait quand même ce souci qui, heureusement, a été retrouvé par des penseurs du XXe siècle.
Et le débat fait rage au XVIIe siècle avec un certain Mélenchon.
Oui.
J'ai bien prononcé?
Oui, vous l'avez bien prononcé.
Alors, quelle est sa thèse à lui?
Bon, lui, c'est la thèse aussi protestante. Alors, il va un peu plus loin que Luther que nous citions tout à l'heure. C'est-à-dire que lui, c'est très clair, le Christ ne peut pas s'être incarné dans une autre terre, le Christ est vraiment s'incarné pour nous les humains, donc il n'y a pas d'autres êtres qui aient pu pécher, qui puissent avoir connaissance.
Je le cite en lisant votre ouvrage, « Nous savons que Dieu est avec nous, citoyens de ce monde, tuteur et serviteur de ce monde, qu'il gouverne le mouvement des cieux, dirige les constellations, rend cette terre fertile et en effet veille sur nous. » Nous n'allons pas nous arranger pour le placer dans un autre monde afin qu'il veille aussi sur d'autres hommes. Autrement dit, il est pour nous et que pour nous.
Exactement. Exactement. Et ça, quand même, je trouve que, je dirais pas que c'est une certaine actualité, mais ça a toujours une actualité. La tentation de mettre Dieu à notre service. Quand nous parlons très volontiers ces temps-ci, depuis quelques années, de retour du religieux, moi je crains toujours que ce soit un recours au religieux pour affirmer notre propre domination, notre propre unicité, nos propres pouvoirs. Et là, c'est une expression qui est presque caricaturale, mais malheureusement si fréquente.
Jacques Arnoux, le moment est venu d'entendre le second morceau de musique que vous avez choisi, La symphonie du Nouveau Monde de Dvorak.
Thank you.
Jacques Arnoux, la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Vous avez un commentaire à faire sur ce choix qui est assez évident.
Oui, il est assez évident et en même temps, ne jamais oublier qu'il fait que ce Nouveau Monde, en tout cas celui qui est apparu devant la proue de Christophe Colomb à la fin du XVe siècle, a quand même aussi bousculé les théologiens. Il a fallu s'interroger sur l'âme, ce qu'on va appeler l'âme des Indiens et toute la
querelle, controverse de Valladolid.
Voilà, la controverse de Valladolid, qui
interroge l'universel.
Mais bien sûr, et qui rejoint aussi la question que nous évoquions juste avant, qui est la question du salut. C'est-à-dire, est-ce que ces êtres vivants, est-ce qu'on va en faire des humains, avec toute la question donc liée à ça, du péché, du salut, est-ce qu'on va les faire rentrer dans cette communauté d'élus? Oui, des grosses turbulences dans le milieu théologique.
Alors, je dois dire, Jacques Arnoux, que j'ai été fasciné en lisant votre livre, La Turbulence dans l'univers, par la subtilité des débats théologiques, que je connaissais fort mal. Mais justement, dans ces débats, est-ce que la question s'est posée de savoir si ces êtres qui vivraient dans d'autres mondes pourraient être supérieurs à nous, meilleurs que nous, ou est-ce qu'on les considère toujours comme moins évolués que nous, au motif que l'homme serait le point culminant de l'évolution?
Bien, on l'a entendu tout à l'heure sous la plume de Nicolas de Cuse. Il admettait, lui, au XVe siècle, qu'il puisse y avoir des êtres supérieurs. Et il était plutôt en train de diminuer en disant « soyons modestes ». D'autres le refusent totalement.
C'est évidemment L'idée que les orbites célestes pourraient finalement abriter de très belles sociétés. C'est l'anagramme, je vous le signale. Les orbites célestes ont pour anagramme « très belles sociétés ». C'est un hasard. Mais je ne sais pas s'il a une portée théologique.
Oui, parce que nous sommes... Vous voyez, avec Nicolas de Cuse, nous sommes avant la révolution copernicienne. Et nous sommes encore dans une vision assez cosmique de la réalité, avec un cosmos qui est plutôt plus beau que la Terre. La Terre n'est que le cloaque de ce cosmos, de ce monde. Donc Nicolas de Cuse, tout en ayant une idée assez moderne, puisqu'il admet la pluralité des mondes, eh bien, est encore un ancien, puisque sa vision est cosmique. Ce qui nous entoure, le ciel qui nous entoure, est plus beau que la terre sur laquelle nous sommes. Et donc, ce faisant, il casse un peu notre prétention à la supériorité.
Mais est-ce que ce ne serait pas ça le vrai coup dur? D'apprendre que la vie extraterrestre est constituée d'êtres beaucoup plus sages, évolués que nous?
Bien sûr.
Plutôt que leur existence même?
Je crois déjà à leur existence même, parce que c'est ce que je dis quelquefois, c'est un peu le syndrome du fils aîné ou de la fille aînée de la famille. Quand arrive le petit frère ou la petite sœur, brutalement, on n'est plus tout seul. Et ça, je suis certain que cet aspect-là joue dans la difficulté pour un certain nombre de croyants, en particulier un certain nombre de chrétiens que je peux rencontrer, quant à imaginer l'existence d'autres êtres un peu conscients, en disant, mais brutalement, je ne suis plus le seul aimé par Dieu. Dans la vie de Galilée de Bertolt Brecht, il y a un superbe passage, je trouve une mise en scène fantastique de ça, où le vieux cardinal s'insurge contre l'idée de Galilée. Pourquoi? Parce que c'est pas le fait qu'il y ait d'autres mondes, etc. C'est de dire que le soleil, c'est le projecteur que Dieu a installé au-dessus de notre terre pour nous éclairer, nous l'humanité, et lui en particulier, vieux cardinal. Donc cette espèce d'anthropocentrisme, même d'égocentrisme, qui est quand même qui nous appartient, soyons clairs.
Alors vous intéressez depuis assez longtemps, Jacques Arnoux, à la question des rapports entre science et religion. Est-ce que les choses, à votre avis, évoluent dans le bon sens, ou est-ce que de nouvelles tensions se manifestent autour de la question de l'origine, par exemple, dont l'anagramme, excusez-moi d'y revenir, est religion?
Bon, nous ferons à la fin la liste des anagrammes que nous avons utilisées.
J'en ai une très belle pour la fin.
Et donc, moi je suis optimiste de nature, donc j'essaie de regarder aussi le bon côté des choses. Je sais qu'aujourd'hui, il y a, et je le vis, des courants, nous en parlions tout à l'heure, ont recours au religieux, ou à une espèce de forme de retour de religieux, qui à travers des postures dogmatiques, des postures littéralistes, on prend le texte sacré, on le lit au pied de la lettre. Bon, je pense évidemment au courant créationniste. Ces courants créationnistes sont dangereux parce que ils touchent l'enseignement, ils touchent l'autorité dans l'enseignement, et c'est des choses qui sont extrêmement graves, je crois, aujourd'hui. Ils sont aussi dangereux d'une certaine manière parce que, par effet de réaction, ils suscitent, des mouvements d'opposition civilisation, où on va au contraire devenir ou redevenir quasi scientiste, où il n'y a plus que la science qui doit tout dire sur l'humain, ce qui me semble tout aussi dangereux. Donc ça, effectivement, nous sommes dans une époque qui est assez troublée de ce point de vue-là, et nous ne devons pas minimiser cet aspect-là, parce que une fois encore, quand ces revendications créationnistes touchent l'enseignement, c'est évidemment une société entière qui peut être concernée par de telles revendications. En même temps, ce que je constate, c'est que entre ces deux extrêmes de revendications, il y a aujourd'hui moyen de débattre, de discuter, dans le beau sens académique du terme, et en particulier sur le domaine qui nous intéresse aujourd'hui. Nous ignorons parfois que est né un domaine particulier qui est l'astrobiologie ou l'exobiologie. Vous en avez sans doute déjà plusieurs fois parlé ici.
Et donc, avec Jean-Pierre Bibring notamment.
Voilà, par exemple. Et ce domaine, il est intéressant. Pourquoi ? Parce que ce sont presque deux cultures sensiblement différentes qui se rencontrent. Tout le domaine de la biologie d'un côté et le domaine de l'astronomie de l'autre ont des histoires, une fois encore, des cultures historiques différentes, se rencontrent. Et dans cette rencontre-là, même rencontre physique, j'entends, il y a des conférences, des workshops, comme on dit en anglais, je constate qu'il y a une ouverture aux autres sciences, aux sciences humaines, à l'histoire, voire même parfois à la philosophie. C'est-à-dire que ce domaine est tellement à la fois très ancien, en même temps tellement nouveau dans cette rencontre, qu'il y a une qualité d'ouverture qui me semble absolument favorable à, justement, à un dialogue ouvert, où il ne s'agit pas tant de condamner et de réallumer des bûchers et d'intenter des procès, que de dire, où va-t-on? C'est-à-dire qu'il y a, au lieu de se retourner uniquement vers le commencement, et vous nous avez déjà souvent fait réfléchir à la question, l'origine, le commencement, ces différences-là, une espèce de nostalgie permanente sur le paradis perdu, religieux en particulier, au contraire, il y a une espèce de regard vers l'avant qui d'abord intéresse les théologiens, je trouve, et qui intéresse aussi la manière de construire nos sociétés où, au lieu de se taper dessus et de nous brûler mutuellement, on peut peut-être quand même se poser des questions ensemble.
Mais est-ce qu'on n'est pas un peu victime du fait que le Big Bang des années 50 n'a pas été très vite assimilé à l'origine de l'univers ? Alors qu'aujourd'hui, les physiciens qui travaillent sur ces questions hésitent, parce que le Big Bang, quand on l'écrit en essayant de tenir compte de toutes les forces qui existent dans l'univers, les forces électromagnétiques, nucléaires, gravitationnelles, le statut du Big Bang tel qu'on le pensait dans les années 50 a été modifié, de sorte que la question de l'origine se pose en d'autres termes, et le Big Bang ne peut plus être considéré comme l'explosion originelle qui aurait créé tout ce qui existe, l'espace, le temps, la matière. C'est plus compliqué, ça pourrait être une transition entre un univers d'avant et l'univers actuel, par exemple. Et donc, est-ce que la théologie s'intéresse à ces évolutions de la science elle-même, ou est-ce qu'on est dans le maintien de rapports de force assez anciens?
Non, je crois que, alors, évidemment, au moment où ces théories, la théorie qu'on appelle aujourd'hui le Big Bang, a été davantage rendue publique, et je pense aux années 50, il y a eu un engouement pour cette théorie dans les milieux, au moins dans les milieux chrétiens, parce qu'il y avait une certaine consonance entre le récit du Big Bang et le récit de la création.
Le Fiat Lux et le Big Bang, même combat.
Exactement. Et Pie XII est allé dans cette perspective-là de concordisme que Georges Lemaître, qui était bien placé pour connaître, puisque c'était l'un des fondateurs de cette même théorie, a non pas condamné, on ne condamne pas le pape, mais a quand même fait remarquer au pape que ce concordisme-là était dangereux. Donc, en fait, au même moment où cet engouement dont vous parliez était en train de naître et s'est plutôt développé, il y avait déjà des mises en garde par rapport à ça. Et aujourd'hui, les théologiens qui travaillent sur la théologie de la création, parce que la théologie, il y a bien énormément de domaines, donc c'est quand même une communauté, je dirais, c'est pas la communauté la plus importante aujourd'hui, mais cette communauté-là, quand même, est assez soucieuse de ce que vous dites, c'est-à-dire de continuer à suivre l'évolution des sciences, justement parce qu'il s'agit d'éviter tout concordisme. Et justement, l'évolution des sciences elles-mêmes disent « Attention, ce qui peut à un moment donné consonner, demain ne consonnera plus », ce que disait déjà Lemaître, ce que disent encore aujourd'hui les théologiens. Donc que ça soit l'occasion de s'interroger en théologie, pour reconsidérer ce que nous disions au début de notre conversation, reconsidérer des traditions avec une perspective différente, ça, je crois que les théologiens aujourd'hui en sont très reconnaissants à l'égard des sciences. Mais ils ne cherchent pas dans les sciences des preuves de quoi que ce soit ou d'être confortés dans tel ou tel aspect de la théologie.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
Alors vous parlez des théologiens, mais est-ce qu'il y a des différences entre les théologiens des différentes religions? Est-ce que, par exemple, à propos de ces questions d'origine, ou bien à propos de la question des exoplanètes et de l'éventuelle vie extraterrestre qu'on a discuté aujourd'hui, les chrétiens catholiques ou protestants ont des façons de voir différentes, ou est-ce que finalement la même question interpelle de la même façon les différents corpus religieux?
Non, il y a évidemment une grande variété. Vous parliez déjà de biodiversité à plusieurs fois dans cette conversation.
Pour les systèmes solaires.
Oui, pour les systèmes solaires, il y en a aussi.
Pour les théologiens.
Il y en a aussi chez les théologiens. Et fort heureusement. Parce que nous sommes dans une communauté de chercheurs à notre mesure. Donc s'il y avait au contraire une absence totale de diversité, ce serait extrêmement dommage. On serait simplement, une seule pensée. La pensée unique en théologie, elle est tout aussi dangereuse qu'ailleurs. Donc il y a une diversité théologique. Mais, cette diversité, elle est, à mon sens, au service d'une communauté beaucoup plus importante qu'est la communauté des croyants. Et c'est eux aussi qui vont servir de test, si je puis dire, à cette diversité théologique. Ce qui est assez notable quand même, et ce qui parfois aussi est peut-être un peu troublant, c'est que il semblerait quand même que la dimension de recherche théologique, de curiosité théologique, soit aujourd'hui très liée à notre Occident. Par rapport aux questions que nous abordons aujourd'hui. Parce que, pour une raison qu'on peut peut-être résumer au risque de la caricaturer, mais c'est que les sciences dont nous parlons, ces sciences de l'astronomie ou la science du vivant, elles ont énormément d'enracinements occidentaux. Et ces enracinements-là concernent directement la même culture que cette culture théologique, en particulier chrétienne. Ou
là, vous parlez de l'histoire de ces sciences, mais aujourd'hui, on les pratique en beaucoup d'autres endroits que l'Occident.
Oui, absolument. Mais dans un milieu culturel, historique, qui est notablement différent. Aujourd'hui, mais c'est une question que je me pose souvent et que vous avez peut-être déjà abordée ici, qui n'est pas si simple que ça à résoudre. Comment un chercheur japonais, spécialiste de la théorie de l'évolution, intègre-t-il sa propre recherche scientifique dans sa culture shintoïste ou japonaise? Nécessairement, le lien entre les deux, enfin la rencontre des deux va être différente de celle que aujourd'hui un chercheur dans le même domaine des théories de l'évolution avec une culture occidentale, cette rencontre va être différente. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile?
Vous voulez dire que la lecture qu'on fait de la science dépend du système culturel, historique, religieux, éventuellement, dans lequel on se trouve?
Oui, j'ai un jour eu une illustration dans un congrès de primatologie où j'étais invité. Il se trouvait que c'était au Japon. Et c'était assez drôle de voir, alors avec mon ignorance de la primatologie et de tout ce qui est comportement animal, mais de voir quand même une différence chez ces scientifiques d'aborder le phénomène de ces primates qu'ils observaient, et sans doute qu'il y avait des questions aussi d'appréhension de la réalité animale dans sa propre culture. Enfin, mais ce sont des hypothèses que je n'ai même pas trop testées.
Justement, parce que la question que nous avons posée, la question du lien symbolique entre les humains, les hommes et les extraterrestres, ne rejoint pas la question du lien entre l'homme et l'animal.
Mais bien sûr,
c'est pour ça aussi. C'est la question de l'autre.
Mais c'est la question de l'autre. Donc avec, c'est pour ça que dans ma petite expérience théologique, j'étais pas simplement... Je me suis invité au moins à ouvrir l'écoutille du « mais comment la Bible aborde l'autre ?» Ou quels sont les différents niveaux de l'autre ? Il peut y avoir l'autre très proche, et je rappelle le célèbre épisode de Caïn et Abel, où ça c'est le frère qu'on va tuer parce qu'on ne supporte pas l'autre très proche. Et Caïn qui lui-même va dire ensuite « Oula, mais j'ai peur de rencontrer les autres hommes », ce qui pose beaucoup de problèmes sur la lecture littérale de la Genèse. Mais c'est aussi l'autre sous la forme d'un ange. Dans la tradition biblique, les anges sont extrêmement présents. Et dans la tradition culturelle, l'ange, c'est le miroir de l'homme. Mais le miroir du miroir, c'est le démon, et approche toute la question aussi du démon. Donc on peut comme ça dérouler toute une interrogation qui amène effectivement à la question aussi de l'animal, à la question des extraterrestres, et puis finalement aussi à la question des idoles. Parce que l'humain se pose volontiers en face de lui un autre auquel il peut donner des pouvoirs plus importants que les siens, des pouvoirs exorbitants, donc un peu surnaturels, extraterrestres. Nous n'avons pas dit, mais le qualificatif d'extraterrestre signifiait auparavant surnaturel. On disait la Vierge Marie est extraterrestre.
Et de quand il date ce mot extraterrestre?
J'ai pas réussi à trouver la date de naissance, mais jusqu'à la fin du 19e, c'était plutôt un terme utilisé dans le monde spirituel et non pas physique. Ça date que du milieu du 19e que l'usage physique ou scientifique
avec
a été fait.
Camille Flammarion.
sans doute à cette époque-là, à peu près. On a quelques traces dans les dictionnaires.
Donc, votre livre, Jacques Arnoux, Turbulence dans l'univers, pose la question en forme d'expérience de pensée du rapport entre les extraterrestres, si leur existence était avérée, et puis la croyance, la foi, Dieu, etc. Moi, j'ai envie de vous proposer pour terminer une expérience de pensée qui est, voilà, un jour, on apprend, grâce à des observations faites par les scientifiques, qu'on a détecté de la vie sur une exoplanète, peut-être sous forme bactérienne, on ne sait pas, et vous êtes invité à commenter ce résultat à un journal télévisé. Qu'est-ce que vous dites ?
Eh bien que, grâce à ces extraterrestres, nous allons enfin regarder de l'avant, ce que je vous disais précédemment. C'est-à-dire que nous devons quitter le côté unique de cette création terrestre. Et nous devons retrouver ce que nous dit très bien le livre de la Genèse dans le récit du déluge. Quand Noé sort de son arche, de fait, il vient d'un monde, d'un autre monde. Et là, il rentre dans le monde qui est le nôtre. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il va poser une alliance avec Dieu. Et ce faisant, il dit, au fond, le passé, savoir d'où on vient, le commencement, tout ça, oublions. Et créons quelque chose de nouveau et portons notre regard vers l'avenir. Et moi, je pense que c'est le principal cadeau que pourrait nous faire l'annonce d'une vie extraterrestre, c'est portons notre regard vers l'avant.
Accessoirement, que c'est une réponse de théologie, hein, ça ?
Oui, parce que la théologie chrétienne est une théologie qui est éminemment eschatologique. L'intérêt majeur, c'est pas pour savoir quelle était la taille du paradis terrestre et quelles essences s'y trouvaient et comment se passait la vie entre Adam et Ève quand ils n'avaient pas péché. Le propos du théologien, c'est un propos eschatologique, c'est on se tourne vers l'avenir, vers le futur, dans l'attente de ça, et une attente qui est à la fois passive au sens où Dieu agit, mais aussi active, où l'homme a aussi sa place dans sa singularité.
Merci Jacques Arnoux d'être venu nous rendre visite à cette conversation scientifique. J'ai vu tout à l'heure à votre visage que vous appréciez les anagrammes. J'en ai une belle pour vous, qu'on doit à Jacques Périssalkov, qui est la suivante. Qu'est-ce que la Terre devant ses vallées supérieures de pétillement d'étoiles ? Eh bien, cette question a pour anagramme « Le vide quantique est et reste la source réelle de l'espace-temps et de l'univers ». Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus tout en vous remerciant. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Pierre Faucillon et à la réalisation François Connac. Tout de suite, vous retrouvez Antoine Guillot pour Plan Large, le rendez-vous cinéma de France Culture.